avec l'Observatoire sociopolitique diocésain.
Pour l'Observatoire sociopolitique diocésain, nous accueillons ce mois-ci Louis-Jean de Barmont.
L'euthanasie en France, oscillation entre horizons mortifères, sensibilité, idéologie et dignité. Le 8 avril dernier, la proposition de loi sur l'euthanasie faisait son retour dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale afin d'être examinée et d'ouvrir ce droit à toute personne désirant l'utiliser. Pour autant, avec le dépôt de plus de 3000 amendements émanant de groupes parlementaires de droite, les députés n'ont pas su se mettre d'accord et voter le texte. C'est un texte qui mérite du temps, selon le ministre de la Santé, afin d'engager de nouvelles réformes, le gouvernement n'étant pas convaincu qu'il faille ouvrir aujourd'hui un débat de cette envergure, et donc le sujet n'est pas à l'ordre du jour. Rappelons qu'en Europe, le Benelux ainsi que la Suisse et le Portugal ont rendu légale cette pratique. En Espagne, l'entrée en vigueur de la loi dite « régulation de l'euthanasie » devrait prendre effet ces prochains jours. Dans le reste du monde, aux États-Unis, seulement 5 États l'ont adopté, et des pays comme le Canada ainsi que la Colombie ont également rendu légale cette pratique. La fin de vie fait débat en France, l'hubris des propos de certains appelle à une prise de conscience urgente. La dignité de l'homme, quelle belle conjugaison de mots, nous entendons cette combinaison autant par les opposants à l'euthanasie que par ses turiféraires, chacun essayant tant bien que mal de tirer la couverture à son avantage, mais qu'en est-il vraiment ? Nous pouvons, lors de débats animés, comprendre que le terme de dignité revêt un caractère ultra-politique et que sa polysémie sert des intérêts antagonistes. Créé en 1980 par Pierre Simon, médecin, écrivain, grand maître de la Grande Loge de France, l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, l'ADM, nous informe dans son préambule de ses motivations. Deux points, ouvrez les guillemets. Le droit pour chacun d'avoir une fin de vie conforme à ses conceptions personnelles de dignité et de liberté. Pour l'ADMD, la dignité est donc une construction personnelle. L'individu peut choisir consciemment de ce qui le rend ou pas digne. Nous verrons que l'Église catholique, la dignité revêt un caractère tout autre. Cette association, donc l'ADMD, insiste pour que, je cite, « chacun puisse à sa stricte demande bénéficier d'une mort consentie, sereine et digne. La dignité étant une convenance envers soi, dont chacun est le seul juge. Cette demande d'aide à mourir doit être évidemment libre, consciente, réitérée et révocable à tout moment, parce qu'il s'agit d'une liberté dont chacun usera ou n'usera pas. Nous pouvons non sans mal constater que l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, même si elle est de bons sentiments, laisse entendre que la dignité est une construction de l'individu et que se donner la mort est un droit. Quelle vision dès lors avoir sur la qualité de dignité que renferme cette notion ? Pour Tugdual Derville de l'association Allons Vita, il existe deux dignités. L'une, la dignité relativiste, que l'on peut acquérir ou perdre. L'autre, la dignité ontologique absolue, ou la dignité selon l'Église catholique. La dignité de la personne humaine repose tout d'abord sur le fait que l'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. L'homme ne peut jamais perdre sa dignité ontologique et naturelle d'être libre et responsable, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. La dignité ontologique absolue nous vient de la valeur de la vie en elle-même, comme nous le rappelle la Congrégation pour la doctrine de la foi, à travers Donum Vitae. C'est à partir de la vie que se développent toutes les autres valeurs de la personne. De plus, la vie n'est pas une création de l'homme, mais un don gratuit, bien que l'homme contribue à cette vie. L'Église catholique est très claire au sujet de l'euthanasie à travers son catéchisme. Elle nous dit ce qui suit. L'euthanasie constitue un meurtre gravement contraire à la dignité de la personne humaine et au respect de Dieu vivant son créateur. Rappelons que Saint Jean-Paul II réitéra cette fidélité au magistère dans l'encyclique Evangelium Vitae en 1995. D'autre part, si l'Église condamne l'euthanasie, elle ne demande pas non plus, comme nous le dit Mgr Jacques Souaudeau, à ce que l'on maintienne coûte que coûte la vie humaine, et n'est pas non plus pour un acharnement thérapeutique, ce que certains détracteurs de l'Église catholique parfois laissent à penser. Bien au contraire, l'Église se dit favorable et milite pour le déploiement des soins palliatifs, comme nous l'explique Mgr Jacques Souaudeau. Les soins palliatifs, si l'on décide d'interrompre le traitement curatif parce que disproportionné avec l'issue probable de la maladie, on ne peut pour autant laisser le malade sans soins. Les soins ordinaires doivent donc être poursuivis jusqu'à la mort du malade. C'est ce qui se passe dans les soins palliatifs. Dans ces soins palliatifs, on cherche avant tout à rendre confortable le malade afin qu'il puisse affronter la mort en paix et avec sérénité, sans souffrir et en éprouvant le moins possible de gêne physique. L'Église donne tout son appui moral aux soins palliatifs, qui, bien délivrés matériellement et humainement, sont la meilleure réponse à apporter à ceux qui justifient l'euthanasie en agitant le spectre de l'acharnement thérapeutique ou des grandes souffrances en fin de vie. Un autre élément à prendre en compte, bien évidemment, c'est l'allègement des souffrances. Même si pour un chrétien la souffrance n'est pas un caractère négatif, elle fait partie du plan salvifique de Dieu, elle est participation à la passion du Christ, elle est une voie de purification et de réparation. En même temps, ajoute la déclaration Iura et Bona de l'enseignement du pape Pie XII, il ne serait pas conforme à la prudence de vouloir faire d'une attitude héroïque une règle générale. La prudence et la sagesse conseillent donc l'emploi des analgésiques pour lutter contre la souffrance en fin de vie, parce que la souffrance physique ressentie dans le psychisme humain devient souvent disproportionnée et prive le malade de sa lucidité et de son jugement, alors même qu'il doit se préparer à la mort. Le document ajoute que l'emploi des analgésiques pour atténuer ou supprimer la souffrance est justifié, même s'il entraîne torpeur ou moindre lucidité. À travers ce document, nous discernons l'engagement des catholiques à amoindrir la souffrance liée à la fin de vie, tout en restant fermement opposés à l'euthanasie. Certains catholiques, et nous pouvons le comprendre pour des raisons bien souvent affectives et sentimentales, sont favorables à l'euthanasie. Est-ce bien légitime ? Pour réponse, je m'en réfère à ce que nous dit l'ancienne infirmière et vierge consacrée Laetitia Calmen, enseignante en théologie morale aux Bernardins et consulteur à la Congrégation pour la doctrine de la foi. Si l'on croit vraiment dans la mort et la résurrection du Christ, c'est précisément face à la faiblesse, à la vulnérabilité, face à la fin de vie des personnes que cette foi peut témoigner de cet amour du Christ qui donne vie jusqu'au bout. C'est contradictoire, même impensable de dire « je suis catholique et je suis pour l'euthanasie ». Et celle-ci de continuer, c'est une grosse hérésie, car cela revient à refuser de croire que Jésus nous a aimés jusqu'au bout, qu'il a donné sa vie, et qu'en donnant sa vie, notre vie, quelle que soit la limite à laquelle elle est confrontée, a une valeur infinie. C'est précisément cette dimension infinie qui fonde notre existence, nos relations, nos amitiés. C'est elle qui oriente nos vies et nos engagements dans une dynamique de communion. Notre vocation est de faire croître ce lien qui nous unit, qui nous humanise, même si on ne perçoit pas ce qu'une personne vit au plus secret de son être. Les derniers moments sont toujours forts d'un chemin de réconciliation avec l'entourage, avec sa propre vie, avec Dieu. Même si elle est apparemment inconsciente, une personne demeure libre de se tourner au plus profond de son être vers son Seigneur et Créateur, vers l'humanité qui l'entoure. Il y a des actes ainsi posés au cœur d'une intériorité qui ont un retentissement profond sur la personne et sur ses relations. Les débats sur l'euthanasie ne cessent d'enfler, alimentés de plus en plus par la loi Leonetti du 22 avril 2005 et Claes Leonetti de 2016, prévoyant une sédation profonde et continue pouvant mener à la mort. Quel regard, dès lors, pouvons-nous porter sur nos frères handicapés et dépendants des autres ? Question que nous pouvons dès lors nous poser aussi. Y a-t-il des vies qui valent plus que d'autres ? Des vies qui valent d'être vécues plus que d'autres ? Heureusement, la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 nous dit ceci. « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. » Une autre question se pose également, d'ordre législatif et déontologique. Si la loi sur l'euthanasie est ratifiée, y aura-t-il pour les médecins, les aides-soignants, les infirmières, la possibilité, pour ceux ne voulant pas administrer la mort, d'un principe d'objection de conscience? Rappelons au passage que les médecins font la promesse et jurent d'être fidèles aux lois de l'honneur et de la probité du serment d'Hippocrate, dans lequel, même s'il n'a pas de valeur juridique, est écrit « Je ne provoquerai jamais la mort délibérément ». Or, dans ce cas-là, nous voyons que la délibération ne souffre d'aucune ambiguïté validée par le corps législatif. À ce propos, nous pourrions reprendre les mots du philosophe Pierre Manant en direction de l'État. Je cite « L'État moderne qui a renoncé à infliger la peine de mort pour des crimes déterminés par la loi » tend de plus en plus à accorder l'autorisation de donner la mort à des malades estimés en fin de vie, selon une loi qui prétend déterminer ce qui n'est pas déterminable, à savoir un certain état subjectif de la personne, justifiant par lui-même et pour ainsi dire exigeant qu'on mette un terme à la vie de cette personne. Une loi prétendant régler la manière d'enfreindre le commandement le plus universel et le plus rigoureux « tu ne tueras point » est le contraire d'une loi. Aussi louable qu'on veuille croire les intentions du législateur, on est forcé de constater que l'État aujourd'hui se juge en droit d'autoriser, c'est-à-dire en pratique d'encourager à donner la mort à des innocents de manière fondamentalement arbitraire. Telle est la conséquence ultime et nullement accidentelle de la perspective de la liberté moderne qui définit la mort comme un accident extrinsèque de la vie. Nous voyons qu'il est fondamental de prendre conscience de la sacralité de nos vies. Les personnes malades qui demandent la mort subissent bien souvent une coercition sociale inconsciente, agissant sur le subconscient nourri par une société utilitariste et matérialiste où la part fragile de l'humanité n'a plus le droit de citer. Dans la majeure partie des cas, les personnes qui demandent l'euthanasie ou ont ce projet, c'est pour abréger une souffrance qui n'a pas été prise en charge, par peur également d'une dépendance, d'une aggravation de leur état, d'un acharnement thérapeutique. Mais ce sentiment et ce désir de mort est bien souvent passager lorsque des soins palliatifs sont administrés aux patients, comme nous le rappelle le délégué général d'Alliance Vita. Pour pouvoir défendre la vie à tout prix, nous devons faire l'expérience de la transcendance, qui commence peut-être par le regard que l'on pose sur une personne malade ou handicapée, sans que notre regard s'arrête à la gêne que cela puisse nous causer ou à ce seul aspect. Une autre expérience serait celle de la déréliction. Ne plus y croire, ne plus avoir d'espérance pour la personne en proie à la maladie. Et à ce moment, en conscience, même dans ce désespoir, faire le pari, comme nous le dit Tugdual-Derville, faire le pari de la dignité au-delà de nos sens. Avoir la pleine conviction que la dignité de cette personne reste intacte. Dès lors, la dignité devient un rempart contre toutes les vicissitudes de l'existence, mais aussi parce que personne ne peut perdre sa dignité, parce que la dignité est un don gratuit de Dieu, et qu'à ses yeux, nul homme n'en est privé, quelle que soit sa condition. La vie n'a pas de prix, sa valeur n'est pas comptable. L'euthanasie est bien la conséquence d'un monde devenu particulièrement matérialiste et par voie de conséquence utilitariste, comme je le disais plus haut. L'un et l'autre allant de pair. L'utilitarisme étant le modèle moral dominant, il ne peut y avoir dans ce monde-là d'humanité fragile. La dignité de l'homme, c'est d'abord de faire l'expérience profonde de l'humilité et de la fragilité de nos existences. Avant de vouloir prendre le pouvoir sur notre mort, essayons d'avoir la maîtrise de soi en direction de la vie.
Pour entrer en contact avec l'Observatoire sociopolitique du diocèse de Bayonne-Lescar et Oloron, 05 59 59 67 92.